Matière à penser, Dominique Rousset.
Et le troisième épisode de notre série L'ère des lanceurs d'alerte, des hommes et des femmes qui depuis plusieurs décennies se battent pour que notre société prenne davantage en compte le respect des humains, de la nature, mais aussi les valeurs sans lesquelles notre société menace de s'effondrer. Certains ont acquis une renommée mondiale, d'autres agissent localement, tous prennent des risques face à leurs contradicteurs, mais aussi devant la loi. Qui sont-ils? Comment les distinguer d'acteurs aux intentions moins nobles? Vigie citoyenne pour certains, traîtres ou délateurs pour d'autres. Ils occupent une place juridique mal définie en réalité. Comment l'alerte est-elle saisie par le droit? Quelle protection juridique? Ceci doit encore être précisé. Concrétisation par le juge, les autorités compétentes, quelles limites? Notre invité ce soir se propose de réfléchir à ces questions, de cerner les contours d'une identité juridique des lanceurs d'alerte, un travail nécessaire compte tenu de leur présence croissante dans les démocraties occidentales. Lanceurs d'alerte, délateurs ou Saint-Just, que dit le droit? Bonsoir Delphine Paulet-Panoussi.
Bonsoir.
Maître de conférence à l'Université catholique de Lille, et vous intervenez assez souvent aujourd'hui. C'est un signe d'ailleurs de l'intérêt pour les lanceurs d'alerte. Et notamment lors de séances de formation, je le signale d'emblée à l'École nationale d'administration, l'ENA, pour les futurs fonctionnaires français et étrangers, de manière à ce qu'ils sachent aussi de quoi il est question en matière de droit. On y reviendra notamment parce que certains étudiants étrangers, notamment africains, assistent à ces séances et que ça n'est pas forcément la même situation chez eux.
Tout à fait.
Nous allons nous inspirer d'un livre collectif que vous avez dirigé avec Mathieu Dizan, Lanceur d'alerte, quelle protection, quelles limites, un ouvrage avec de nombreuses contributions de juristes français et étrangers. Les lanceurs d'alerte, pour vous, Delphine Paulet-Panoussi, ce qui a sans doute motivé cet ouvrage, une figure juridique nouvelle et peu connue?
Oui, tout à fait. La notion a été saisie par le droit assez tardivement et par le droit français encore plus tardivement. On peut considérer que la notion de lanceur d'alerte au départ, enfin c'est le terme, c'est la traduction d'un terme anglais, whistleblower, littéralement celui qui donne un coup de sifflet. Et au départ, le phénomène est américain. Il apparaît en 1863, la première législation de protection des lanceurs d'alerte, le False Claim Act, qui encourage la dénonciation de fraude à l'encontre de l'État fédéral. Et puis ensuite, il va se développer toujours aux États-Unis dans les années 70, suite aux affaires du papier des Pentagones et puis Watergate. Et donc on va voir apparaître comme ça des législations protectrices. Et puis après, le phénomène va traverser la Manche dans les années 90. Au Royaume-Uni, il y a eu dans les années 90 pas mal de catastrophes. Il y a eu le déraillement d'un train, faillite d'une banque, naufrage d'un ferry. On s'est rendu compte de sévices sur des enfants dans une institution. Et on s'est dit, avec cette idée, que si on avait su, le pire aurait pu être évité. Et donc, nécessité de mettre en place une procédure, justement, quel que soit le secteur de l'alerte, pour éviter les préjudices. Donc, au départ, c'est ça. Et puis, après, le phénomène gagne la France simplement à partir de 2007. Au départ, de façon sectorielle, c'est-à-dire que la France va faire le choix, souvent en réponse à des scandales financiers
d'actualité,
ou sanitaires, tout à fait. C'est souvent des lois de réaction. Elle va faire le choix de mettre en place des lois de protection dans des secteurs bien spécifiques. La fraude fiscale, ça c'est en lien avec l'affaire Cahuzac. La sécurité du médicament, c'est en lien avec l'affaire Irène Frachon. On choisit quelques secteurs. Et puis ce n'est qu'en 2016...
C'est de la jurisprudence, en fait.
Alors, à la fois, c'est des lois. C'est des lois qui sont prises, mais qui viennent protéger, viennent mettre en place un système d'alerte, de signalement possible et de protection de la personne qui porterait l'alerte, mais dans des secteurs très spécifiques. Et enfin, il faudra attendre la loi Sapin
2016.
De 2016, la loi Sapin 2, qui va justement consacrer une protection globale.
Alors, avant de détailler cette loi, ce qu'on va faire, bien sûr, avec vous, quelques questions encore. En quoi les lanceurs d'alerte posent des problèmes juridiques? Je l'ai un peu dit dans le titre. Mais vigie citoyenne, mais traître pour beaucoup de leurs contradicteurs.
Alors,
et des contradicteurs parfois très puissants, il faut l'ajouter.
Tout à fait. En fait, puisqu'ils vont dénoncer ou qu'ils vont révéler des informations par définition cachées, ils vont évidemment souvent porter atteinte à des secrets qui sont eux-mêmes protégés par la loi, tels que le secret professionnel, évidemment. La frontière entre, finalement, l'alerte qui est fondée et qui donne droit à être justifiée, et puis au contraire la délation, est mince, parce que généralement, les personnes qui font l'objet d'une alerte, les entreprises qui font l'objet d'une alerte, vont tout de suite crier à la violation du secret professionnel, à la dénonciation calomnieuse, etc., etc. Donc c'est pour ça que la frontière est mince et qu'il y avait besoin de oui. préciser davantage les choses.
Un dénonciateur peut être légal, entre guillemets, oui. hein, j'utilise les mots avec prudence, je pense par exemple en cas de harcèlement ou de mauvais traitement pour des enfants, des personnes âgées, enfin
tout à fait.
Là, nous avons tous, citoyens, obligation de dénoncer.
Tout à fait. Il existe deux figures du lanceur d'alerte. Il y a effectivement le lanceur d'alerte, dénonciateur légal. Alors là, c'est la loi qui vient reconnaître la dénonciation comme étant légitime et elle va justement prévoir un système, une procédure de dénonciation à laquelle elle va assortir une protection pour la personne qui va dénoncer ces faits. Donc là, l'alerte, c'est un droit et c'est même parfois une obligation. Je pense par exemple à l'article 40 du Code de procédure pénale qui oblige les fonctionnaires et les agents publics qui sont témoins de crimes et délits dans le cadre de leurs fonctions de les dénoncer au procureur de la République.
Donc là, de quoi ils peuvent avoir des sanctions ?
Alors, elles n'ont jamais été précisées, mais normalement, potentiellement, oui. C'est un droit, mais c'est même parfois une obligation. Là, le dénonciateur, enfin le lanceur d'alerte peut prendre quelques risques, mais tout est cadré entre guillemets. Et à côté, il y a des gens qui agissent complètement hors cadre. Là, c'est vraiment le lanceur d'alerte vigie citoyenne. Qui va agir en dehors de tout cadre légal parce qu'il a la conscience d'un danger et qu'il a le sentiment que l'atteinte à l'intérêt général est telle qu'il doit finalement passer outre toutes ouais. les lois pour faire part du danger pour autrui.
Vous l'appelez une alerte éthique, morale ?
Alors les deux, en fait,
l'alerte légale ?
Ben, pas du tout. Les deux sont de l'alerte éthique. Mmh. C'est juste qu'il y a une alerte éthique qui est institutionnalisée et une autre forme d'alerte éthique qui ne l'est pas. Mais il y a un glissement possible entre les deux, parce qu'on assiste aujourd'hui à un phénomène d'institutionnalisation de l'alerte, et le glissement entre les deux est très net. Par exemple, je prends le cas de Madame Frachon, qui a dénoncé les effets du Mediator. Elle l'a fait hors cadre. Elle l'a fait hors cadre, il n'y avait rien qui venait, aucune procédure, elle a agi spontanément. Ben, suite à son action, donc elle a été vigie citoyenne. Suite à son action, il y a une loi de 2011 sur la sécurité sanitaire du médicament qui a été adoptée, et qui a prévu une procédure, justement. Donc, si vous voulez, c'est souvent, au départ, un lanceur d'alerte, il y en a un qui se jette à l'eau et qui fait évoluer derrière la législation. Et ensuite, finalement, on vient institutionnaliser l'alerte pour ceux qui arriveront derrière.
Bien sûr. En général, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle est venue nous voir aussi pour cette série. Il est en général conscient de transgresser une
Tout
norme.
À fait.
Enfin, comme le secret professionnel. Ou en l'occurrence.
Tout à fait. Ils sont très
conscients. C'est pas un secret médical, mais enfin, elle agissait dans un milieu médical.
Tout à
mais
fait.
Avec le sentiment
de se conformer à un intérêt supérieur.
Il y a une histoire du lanceur d'alerte, on allait dire du lanceur d'alerte, on pourrait dire sans le savoir, puisque le phénomène n'est pas nouveau. Vous avez d'abord parlé de cette loi des États-Unis qui date du 19e, qui est très, très ancienne. Mais même en France, on ne parlait pas encore de cela, mais vous avez dans l'ouvrage que vous dirigez, je ne sais plus qui a écrit cet article, où il mentionne plusieurs cas.
On peut attribuer rétrospectivement la qualité de lanceur d'alerte à des personnes qui se sont soulevés, voilà, et qui ont dénoncé un certain nombre de choses. Par exemple, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, on pourrait attribuer cette qualité au lieutenant-colonel Picard, qui a fait part de l'innocence de Dreyfus à ses supérieurs et qui leur a expliqué qu'il y avait un souci. On pourrait aussi attribuer cette qualité au général Paris de Bollardière, qui a dénoncé la torture pendant la guerre d'Algérie. Karski aussi, qui a tenté de prévenir pendant la Seconde Guerre mondiale de l'extermination des Juifs, etc. Donc on peut rétrospectivement attribuer cette qualité, effectivement.
Ouais.
Même si la notion est nouvelle, le phénomène est ancien.
Aux États-Unis, on se souvient du phénomène de gorge profonde, c'est quoi,
tout
les années 70 ?
C'est les années 70, tout
c'est
à fait.
C'est un lanceur d'alerte ?
C'est un lanceur d'alerte, c'est un informateur, c'est un lanceur d'alerte. C'est lui qui était l'informateur du Washington Post.
Alors, vous vous y intéressez aujourd'hui, hein, je l'ai dit, Delphine Paulet-Panoussi, et vous n'êtes il y a plusieurs juristes aujourd'hui qui commencent à ouvrir les yeux sur ce phénomène, on va dire. Pourquoi est-il si présent aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une société de transparence? Je ne sais pas, est-ce que c'est une exigence citoyenne pour plus de justice?
Oui, je
pose
pense.
La question à tous mes invités dans cette série. C'est aussi votre analyse?
Je pense, tout à fait. Il y a une volonté beaucoup plus grande des citoyens, d'une société plus transparente, comme vous l'avez dit.
Ça n'est pas la reconnaissance des abus?
Je ne sais pas. Je pense pas qu'il y ait forcément plus d'abus qu'avant. Je pense qu'il y a une volonté d'une démocratie renouvelée. On le voit bien avec le contexte actuel. Et une participation, une implication plus grande des citoyens eux-mêmes. Et je pense que ce mouvement s'inscrit là-dessus. Et
plus soucieux aussi de leur santé, de leur environnement.
Tout à fait. Et puis aussi...
Et de la moralisation.
Moralisation de la vie publique. C'est extrêmement important aussi.
L'impact également, je crois que vous l'avez analysé, de la diffusion de l'information. Internet, bien entendu, les réseaux.
Bien sûr. Après, il faut la liberté d'expression. Alors, c'est pour ça qu'on va certainement en parler, mais la protection des lanceurs d'alerte, elle peut pas être absolue, parce que la liberté d'expression elle-même n'est pas absolue. On peut la restreindre sous certaines conditions. Et voyez, le droit d'alerte, c'est une déclinaison de la liberté d'expression dans ces deux formes. C'est-à-dire, à la fois, la liberté d'expression, c'est le droit de diffuser l'information, mais c'est également, il y a une autre face, c'est le droit pour les citoyens de connaître l'information. Et on voit bien que le droit d'alerte renvoie à ces deux aspects de la liberté d'expression. S'il existe le droit d'alerter, c'est parce que justement, il y a un droit à informer. Et s'il faut protéger le lanceur d'alerte, c'est justement parce que il y a un droit pour la collectivité à connaître.
Bien sûr, le lanceur d'alerte s'expose à des sanctions disciplinaires en interne dans son entreprise éventuellement, mais pénales aussi. Et difficile de différencier en fait l'alerte légitime, entre guillemets, de la dénonciation calomnieuse. En fait, peut-être pas si difficile d'ailleurs, mais en tout cas, ça fait partie des points sensibles.
En fait, il faut que le lanceur d'alerte arrive
à démontrer que ce n'est pas une calomnie.
Que ce n'est pas une calomnie.
Et c'est à lui de le démontrer.
Alors, ça c'est le problème. C'est-à-dire que dans toutes les législations, on veut une législation qui soit protectrice du lanceur d'alerte. Donc on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'on part du principe que le lanceur d'alerte est de bonne foi et ça va être aux autres de montrer que, en fait, notamment lorsque c'est des sanctions disciplinaires, ça va être aux autres, notamment à l'employeur, de démontrer que les sanctions qu'il a prises à l'encontre de la personne qui a dénoncé des faits n'étaient pas justifiées justement par cette dénonciation. Mais au pénal, et ça c'est un problème, on a beau mettre dans la loi qu'il y a un versement du charge de la preuve, au pénal c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au pénal, c'est...
Vous voulez dire devant le juge?
Devant le juge pénal. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte doit prouver sa bonne foi au pénal. D'ailleurs, c'est dans une des contributions, mon collègue Franck-Claude Vizac insistait là-dessus, il disait que c'était un gros défaut. C'est-à-dire que dans la loi, effectivement, on dit bien que la bonne foi, elle est présumée. Mais ça marche que au niveau civil et administratif, au pénal, ça marche pas. C'est un des défauts.
Ça reste un des défauts à étudier. En clair, le droit, ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire le droit actuel, n'est pas encore tout à fait adapté de votre point de vue sur cette question du lanceur d'alerte. Et on va venir au détail des lois.
On a fait d'énormes progrès. C'est-à-dire qu'on est parti de rien du tout. Et aujourd'hui, on peut quand même estimer que la loi Sapin 2, sur laquelle on va revenir, est quand même un énorme progrès. Alors certes, elle souffre certainement encore de certains défauts, mais on part de tellement loin qu'on peut vraiment considérer que c'est une... Je dirais même pas que c'est une étape, c'est quand même déjà quelque chose de très abouti et qu'il y a encore des petites corrections certainement à la marge. Mais je pense que c'est une loi équilibrée.
On avance. On va montrer un peu les critiques qui lui sont aussi adressées. Vous avez parlé de 2007?
Oui, alors parce qu'en fait, en 2007, de 2007 à 2016, en France, la protection des lanceurs d'alerte était sectorielle, c'est-à-dire par grands secteurs, l'environnement, la santé, la protection des finances publiques, la prévention des conflits d'intérêts. Et ce n'est qu'à partir de 2016 qu'on a décidé d'avoir une protection globale, finalement avec une même procédure à suivre par le lanceur d'alerte, quel que soit le secteur de l'alerte. C'est la même procédure qui s'applique pour tous.
Exemple, la loi Blandin, c'est sectorielle.
Oui, tout à fait. C'était dans
2013, mais qui concerne que les questions des alertes environnementales et sanitaires. Donc c'est un texte
qui est maintenant absorbé par la loi Sapin. Alors, certains reprochent à la loi Sapin de ne pas avoir repris quelque chose qui était très bien dans la loi Blandin, puisque aujourd'hui, la loi Sapin, pour être lanceur d'alerte, il faut être une personne physique. Tandis que la loi Blandin, permettait aussi à des personnes morales, par exemple des associations de protection de l'environnement, de pouvoir bénéficier de cette qualification. Et ça, la loi Sapin ne le reprend pas. Donc c'est certainement un recul par rapport à la loi Blandin.
Ça fait partie des reproches, effectivement, qu'on lui a fait. Avant la loi Blandin, rapport du Conseil d'État, ce qui veut dire quand même qu'on commençait à s'agiter un peu dans tous les milieux, y compris politique. Rapport Conseil d'État sur les lanceurs d'alerte, ça date de février, donc juste avant la loi, qui date, je crois, de la fin de l'année.
Alors c'est en 2016, sens, c'est juste avant 2016 la loi déjà, Sapin, tout à fait.
Et donc ça allait dans quel sens? Est-ce qu'on est allé aussi loin?
Clairement, le Conseil d'État a fait un état des lieux sur le droit d'alerter en France et il a montré qu'il y avait d'insuffisantes protections pour le lanceur d'alerte et il a fait un certain nombre de préconisations. Et on peut considérer que la loi Sapin 2, hein, qui date effectivement de décembre 2016, le rapport plutôt, comme vous l'avez dit, de février, on peut considérer que la loi Sapin 2 s'en est clairement inspirée. De même que la loi Sapin 2 s'est inspirée fortement d'une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe de 2014. Chaque fois, on vient faire des préconisations sur ce que serait la protection idéale du lanceur d'alerte, mais de la nécessité également de ne pas protéger à tout prix et de concilier à la fois l'intérêt général, mais également l'intérêt des employeurs, publics ou privés. Parce qu'une alerte, parfois, il peut y avoir des alertes aussi abusives. Donc voilà, il faut trouver un équilibre.
J'en viens à la définition. Le lanceur d'alerte, donc donné par la loi, est toute personne physique, citoyen, agent public ou salarié, signalant ou révélant une grave atteinte à l'intérêt général. La notion d'intérêt général est très importante. On l'a vu d'ailleurs, notamment avec l'affaire d'Irène Frachon.
Tout à fait. Hein,
où elle a été défendue dans ce sens. Et on le verra avec Denis Robert, que nous recevons aussi. Pareil, ça a été estimé par la Cour de cassation, son affaire Clearstream, comme des révélations d'intérêt général. Donc, mais on exclut la définition, par conséquent, du régime général de protection. Alors, c'est un petit peu compliqué. Ni l'ONG, les associations, les syndicats.
Oui, la loi Sapin, elle exige la qualité de personne physique. Donc, il faut être une personne physique, déjà. Il faut forcément agir dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir dans son propre intérêt, là, tout de suite, vous n'êtes pas un lanceur d'alerte.
Mais pas de personne morale.
Personne morale, c'est non. Donc pas les associations, pas les syndicats. Ça, c'est certainement un vrai défaut de la loi. Oui. Donc il faut forcément être une personne physique. Je pense que elle a retenu ça parce qu'elle se dit que le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui prend des risques pour lui-même, qui est justement traversé par un conflit de valeurs. Qu'est-ce qui est le plus important, le secret professionnel, l'intérêt général? Tandis que il y a peut-être un côté professionnalisant aux personnes morales. C'est leur job entre guillemets de venir dénoncer des malversations, des choses comme ça. Donc on a voulu ne pas trop professionnaliser. C'est pour ça que je pense que la loi a fait le choix de
s'intéresser à la personne.
Voilà, à la personne. Donc elle doit effectivement agir, dénoncer quelque chose dans l'intérêt général. Elle doit également être de bonne foi, agir de façon désintéressée. Donc l'alerte n'est pas rémunérée. Et elle va devoir respecter des modalités de divulgation proportionnées.
France Culture, Matière à penser, Dominique Rousset.
En compagnie de Delphine Paulet-Panoussis, juriste, qui est à l'origine d'un travail très complet sur cette question du droit face aux lanceurs d'alerte. On est entré dans cette loi Sapin 2016, un moment en tout cas pour la France, on va parler d'autres pays, mais pour la France, important, Delphine Paulet-Panoussis, et vous nous dites qui exclut la personne morale. On a cité les associations, les ONG, les syndicats même. Qu'en est-il des journalistes?
Les journalistes ne sont pas considérés, eux non plus, comme des lanceurs d'alerte, justement parce que leur métier, c'est de faire des enquêtes et de dénoncer, notamment les journalistes d'investigation. Et donc, ce sont des professionnels, entre guillemets, de l'alerte, et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas bénéficier de cette qualité, puisqu'ils ne sont pas animés d'un conflit intérieur. Voilà, eux, leur travail, c'est justement de révéler des informations.
Idem, je le dis au passage, les inspecteurs du travail.
Tout à fait.
Et les magistrats. Donc, qui est protégé ? Salarié, citoyen ? C'est une procédure graduée de responsabilisation.
Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la définition du lanceur d'alerte, alors, malgré le fait qu'elle se concentre sur la personne physique, est la plus large au monde. La définition française,
ah oui.
C'est la plus large au monde, puisque bien souvent, dans les différentes législations, on fait le choix de cantonner le lanceur d'alerte dans son secteur professionnel. C'est quelqu'un qui va révéler des informations, mais dans le cadre de sa profession. En fait, il est bien placé, il est au courant dans le cadre de sa profession, qu'elle soit dans le secteur public ou le secteur privé. Il va se rendre compte de choses pas très nettes et il va le révéler. Tandis que la loi Sapin fait le choix d'une définition plus large qui n'est pas simplement centrée sur le salarié ou le fonctionnaire, mais qui s'étend à toute personne physique. Donc ça veut dire que le lanceur d'alerte peut aussi bien être un citoyen qui se rendrait compte d'un souci ou aussi un usager d'un service public. Enfin voilà, c'est beaucoup plus large. Donc ça, c'est un premier point positif de cette loi. Mais une des conditions pour pouvoir être protégé...
Il faut suivre toute une procédure.
C'est ça, voilà, c'est de suivre toute une procédure, lourde. Une procédure graduée, qui est inspirée du modèle anglo-saxon, qu'on a copié, la loi globale de protection des lanceurs d'alerte du Royaume-Uni de 98, on l'a transposée. Alors, il y a trois paliers. Le premier palier, c'est le palier interne. C'est une procédure de recueil des signalements internes. L'idée, c'est que, si possible, on espère que les choses vont se régler au sein même de l'administration.
Mais là, vous parlez du salarié dans l'entreprise ou dans une institution.
Ou le salarié ou le fonctionnaire dans son administration. On doit d'abord traiter l'alerte à l'interne.
En espérant que ça va se régler sans faire trop de vagues.
C'est ça. Alors, la loi dit...
Il faut rappeler que ce sont souvent des scandales.
Tout à fait. Qui mettent en cause, qui mettent en cause parfois l'institution même dans laquelle vous travaillez. Donc, c'est la difficulté. Donc, effectivement, la loi dit, dans un premier temps, en tout cas, il faut soit prévenir son supérieur hiérarchique, direct ou indirect, soit son employeur, soit un référent. À raison de ce palier, la loi a été complétée d'un certain nombre de décrets, de circulaires, etc., qui imposent les entreprises, les administrations qui emploient plus de 50 personnes, à mettre en place justement des procédures internes de recueil des signalements. Après, je vous parlerai du deuxième palier, mais concrètement, on incite, enfin, dans les circulaires notamment, on incite à ce que ces organismes fassent le choix d'un référent alerte. Puisqu'on se dit que ça va mieux libérer la parole que si c'est aller voir le supérieur hiérarchique, peut-être que c'est lui-même que vous allez remettre en cause,
pas évident.
Ou l'employeur. Donc on essaye de... Voilà, on conseille quand même que ça soit un référent, quelqu'un qui soit externe. Parce qu'on avait même pensé aller voir quelqu'un du service juridique, mais quelqu'un du service juridique, il bosse quand même pour l'entreprise elle-même que parfois vous mettez en cause. Donc c'est délicat. Donc voilà, l'idée c'est d'orienter vers ce référent extérieur.
Que se passe-t-il ? Je vous interromps, là je suis en cours de procédure, je suis un lanceur d'alerte, je suis allée voir mon référent plutôt que mon supérieur, parce que, imaginons, c'est à mon supérieur justement que je voudrais faire voir le scandale, il en est peut-être à l'origine, etc.
Tout à fait.
Que se passe-t-il s'il décide de me licencier pour faute grave ?
Alors, vous êtes protégé. Concrètement, ça veut dire que vous allez contester devant le juge et
C'est à lui de le démontrer.
C'est à lui de démontrer que ce licenciement n'est pas lié à ce que vous avez dénoncé. Et s'il n'arrive pas à le démontrer, évidemment, le licenciement sera considéré comme nul et il y a même une possibilité de réintégration. Après, je ne sais pas si elle est souhaitable ou souhaitée, mais il y a une possibilité prévue par la loi.
L'anonymat est garanti ?
Alors, ce n'est pas l'anonymat, c'est la confidentialité du lanceur d'alerte. On n'a pas souhaité, la loi Sapin n'a pas souhaité l'anonymat parce qu'on considérait que ça déresponsabilisait aussi peut-être les personnes à l'origine de signalement. Par contre, la confidentialité est garantie. Donc, dans toute la procédure justement interne qui doit être prévue, à chaque fois, on dit bien, il faut que vous devez prévoir un système. Alors, quand c'est par exemple une saisine par écrit, un système de double enveloppe où on vous conseille de créer une adresse mail spécifiquement pour dénoncer si c'est ça, pour pas qu'on puisse vous retrouver. Bon, après, je ne sais pas si c'est totalement efficace, mais en tout cas, on garantit la confidentialité du lanceur d'alerte et même des personnes mises en cause, puisque tant qu'on ne sait pas si les faits sont avérés, il ne faut pas non plus que les personnes mises en cause, on connaisse également leur identité.
Vous trouvez la loi très complète, plutôt bien faite, si je vous entends bien?
Alors, pas forcément.
Pas forcément.
Alors, juste, je me permets de revenir rapidement sur les deux autres paliers, parce que là, on n'a parlé que du premier à l'interne. Si délai raisonnable, l'alerte n'est pas traitée, dans ce cas-là, deuxième palier, le lanceur d'alerte se tourne vers ce qu'on appelle les autorités régulatrices. Par exemple, les inspections ministérielles, la préfecture, des autorités administratives indépendantes, etc. Et si elle-même, dans un délai de trois mois, ne bouge pas, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ils peuvent rendre public leur signalement. Donc, c'est-à-dire que le fait de dénoncer médiatiquement une alerte n'est pas, dans la loi, que l'ultime recours, si tout a échoué avant.
Le lanceur d'alerte ne peut pas, sauf à être à ce qu'on lui reproche, ne peut pas directement s'adresser à un média pour dénoncer.
Non, sauf si il démontre qu'il n'avait aucune possibilité d'agir.
Alors, parmi les critiques, on dit que justement, cette forme de palier comme ça à respecter risque de donner une démarche très bureaucratique. Et quand on est dans une histoire ou qu'on est devant un scandale, un signalement aussi dramatique qu'il peut parfois l'être, on n'a pas forcément le temps de passer par tout ça. Ce risque-là, vous le reconnaissez?
Ah oui. Je pense que cette institutionnalisation de l'alerte...
Il y a l'urgence quand même. Là.
Voilà, ouais. Cette institutionnalisation aboutit certainement à une bureaucratisation et à une perte de potentialité critique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que on va essayer de régler les choses d'abord en interne. Si ça marche pas, on va saisir les autorités compétentes, le juge, etc. Et si ça marche pas simplement, l'opinion publique sera avertie. Donc effectivement, il y a une perte de potentialité critique extrêmement importante.
Et de temps.
Oui, ça je le reconnais. En plus, comme on a adopté une protection globale, c'est-à-dire que toute personne maintenant qui agira hors cadre, elle prendra le risque de s'exposer à des sanctions parce qu'on se disait, vous n'êtes pas un lanceur d'alerte, vous n'avez pas respecté la procédure. Donc elle prend un risque de se mettre hors cadre et de ne plus être protégée.
D'autres pays font différemment?
On dit que les meilleurs standards de protection sont des lois comme la loi Sapin, c'est-à-dire des lois globales. Et même la Cour européenne des droits de l'homme vient dire qu'on ne peut pas protéger à tout prix, aveuglément, les lanceurs d'alerte, qu'il y a un juste équilibre à trouver entre l'intérêt du public d'être informé et les intérêts des personnes mises en cause. Et la Cour européenne des droits de l'homme elle-même le dit. Elle vient dire que cette conciliation, ce juste équilibre, passe justement par cette procédure graduée qui permet de concilier les deux.
Il faut aussi mentionner, c'est important, à côté de la loi, Delphine Pollet-Panoussi, le rôle du défenseur des droits.
Tout à fait.
Occupé, on le sait, par Jacques Toubon actuellement. Une protection supplémentaire, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il veille à ce que ses droits soient respectés?
Alors,
la liberté de...
le défenseur des droits a été investi par une loi organique qui a été votée en même temps que la loi Sapin, d'une mission d'orientation des lanceurs d'alerte. Au départ, on avait envisagé une mission plus large, à la fois d'orientation, mais également de protection, d'accompagnement, y compris, pourquoi pas, financier, juridique des lanceurs d'alerte. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce n'était pas conforme aux missions dévolues aux défenseurs des droits, donc il a censuré cette partie de la loi. Et finalement, le défenseur des droits n'a récupéré qu'une mission d'orientation. Ce qui veut dire que lorsque, justement, vous n'êtes pas très à l'aise avec tous ces paliers, que vous ne savez pas qui saisir, à qui vous adresser, vous pouvez vous adresser au défenseur des droits, et le défenseur des droits vous orientera sur la bonne autorité à saisir, et parfois, il pourra aussi vous orienter vers des ONG qui pourraient aussi vous accompagner dans vos démarches.
Oui, on va en parler d'ailleurs, la maison des lanceurs d'alerte qui a été créée récemment. Un dernier point, on ne va pas détailler toute la loi, mais je crois que vous en avez esquissé les grandes lignes. On a doublé le montant de l'amende civile qui avait d'abord été décidée, je crois, qui expose la partie civile si elle intente un procès en diffamation contre le lanceur d'alerte. Elle peut s'exposer à 30 000 euros.
Tout
ce qui ne paraît pas colossal pour une très grande compagnie qui sont souvent...
Tout à
d'accord.
Fait.
Le risque de voir se multiplier des fausses alertes, Francis Château-Renaud, le sociologue que nous avons reçu en début de semaine, dit « mais produire un signalement erroné, c'est quand même rendre service à la collectivité. Il y a toujours de vraies alertes qui dérivent des fausses. » Et il prend, exemple, une fausse alerte à la bombe. Ça permet de montrer, au fond, comment le signal peut être intercepté, comment il peut être relayé. Et ça dit déjà quelque chose.
Bon, je n'irai pas jusque-là. je pense que les fausses alertes, parfois, peuvent avoir des conséquences dramatiques en termes d'image, aussi bien pour une entreprise privée et même pour les administrations. Il y a tellement une perte de confiance dans nos institutions que les fausses alertes peuvent vraiment, je pense, porter un coup dur.
Il y a un risque. Voilà. On a parlé des États-Unis, du Royaume-Uni, qui ont été pionniers en la matière.
Tout à fait.
Il y aurait aujourd'hui 60 pays dotés de législation, la plupart, j'imagine, dans les démocraties.
Oui.
On a 22 dans l'Union européenne, tout de même.
Oui. Il y a une soixantaine de pays, effectivement, qui sont dotés d'un régime de protection des lanceurs d'alerte. Une cinquantaine ont fait le choix de lois sectorielles, c'est-à-dire par domaine d'alerte, le conflit d'intérêts, la corruption, etc., l'environnement. Et il y a simplement une dizaine qui a fait le choix d'une protection globale, à l'image de la France, du Royaume-Uni, de l'Irlande. On a également la Serbie, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, enfin c'est assez éclectique. Et il y a quelques pays africains comme...
Mais vous n'avez pas parlé de la Suède, je crois que c'est très ancien aussi, non?
Alors la Suède, oui, mais ils n'ont pas de loi de protection globale non plus.
D'accord.
C'est des lois sectorielles. Mais les pays scandinaves sont toujours...
Toujours un petit peu devant,
mais ce n'est pas une protection globale en tout cas. Mais c'est une protection qui marche différemment, mais c'est... Voilà, c'est...
Alors 22 législations européennes, c'est déjà pas mal, mais pas de décision au niveau européen, hors le Parlement qui a adopté en, je crois, octobre 2017, un rapport qui a chaudement recommandé à la Commission de présenter un projet de directive. Mm-hmm. C'était l'an dernier, 2018, toujours rien.
Alors, le projet de directive a été déposé par la Commission l'année dernière, en avril 2018. Donc, il y a eu une proposition de directive et qui a été discutée et adoptée par le Parlement européen. Et maintenant, il y a une troisième étape, c'est l'adoption par le Conseil. Donc là, c'est par les États eux-mêmes. On est en pleine discussion avec les États. L'idée, évidemment, alors on souhaite que ça aboutisse, et l'idée, c'est de permettre une protection harmonisée dans les pays de l'Union européenne. Protection qui apparaît d'autant plus importante qu'on le voit bien, il y a certaines infractions.
Des circulations d'un pays à l'autre.
Voilà, et puis moi, je pense à l'affaire Antoine Deltour, LuxLeaks. Forcément, c'était un Français qui travaillait au Luxembourg. Il y avait de l'optimisation fiscale à grande échelle qui impliquait plein de pays. Donc je pense qu'effectivement, une protection au niveau de l'Union européenne serait la bienvenue.
Oui, une affaire comme celle-là, typiquement.
Ah ben, on n'a pas été bloqué, mais c'est vrai que moi, je pense que ça serait bien qu'il y ait une protection uniforme sur ce sujet dans l'Union européenne.
Du lancement d'alerte à la désobéissance civile, le terme est employé aussi assez régulièrement, on le voit bien, puisqu'il s'agit d'enfreindre peut-être la loi ou en tout cas beaucoup de règlements. J'avais juste envie de vous donner ce point d'histoire. La désobéissance civile, ouvrage de Henry David Thoreau, ça date du 19e siècle. Ce serait donc lui qui aurait forgé ce thème pour désigner au fond un problème assez ancien. Et je cite ce qu'il nous dit dans cet ouvrage, en ouverture. « Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur ? Pourquoi alors chacun aurait-il une conscience ?» nous dit-il. Désobéissance civile, titre de l'ouvrage 1849, d'accord avec cette assertion, vous la juriste?
Alors, on est très proche de la frontière, la frontière est très étroite avec les lanceurs d'alerte. Certains lanceurs d'alerte sont qualifiés de désobéissants civils, notamment je pense que la proximité entre les deux est la...
Et ils l'assument souvent.
Et ils l'assument, tout à fait. Alors, on ne peut pas parler de proximité quand c'est justement le lanceur d'alerte qui agit dans le cadre légal. Là, évidemment, il ne ressemble pas, mais le lanceur d'alerte qui agit complètement hors cadre, là, il est très proche du désobéissant civil. Quand il prend tous les risques au nom de sa conscience, ça correspond exactement à la définition que vous venez de rappeler. Mais alors, la petite différence, on pourrait dire que le désobéissant civil, il remet en cause même la norme même, tandis que le lanceur d'alerte, même dans sa forme la plus radicale, lui, il souhaite qu'on respecte la loi, justement telle qu'elle devrait être.
Exemple de Greenpeace. Se qualifie de lanceur d'alerte, mais également assume, revendique la désobéissance civile. Mm-hmm. Je prends l'exemple, ils ont eu évidemment plusieurs procès, c'est une ONG écologiste, bien entendu. 8 de ces militants ont été condamnés en octobre 2017 pour s'être introduits dans la centrale nucléaire de Cattenom, c'était en Moselle, vous connaissez cette affaire. Oui. Dans le but, ont-ils dit, d'alerter les autorités sur la forte vulnérabilité des bâtiments face à des actes de malveillance. Alors je précise que deux d'entre eux ont écopé de 2 mois de prison ferme, les 7 autres de 5 mois avec sursis. Mais l'association a été condamnée, 20 000 euros d'amende, 50 000 de réparation de préjudice moral à EDF, qui en réclamait bien davantage, d'ailleurs 500 000, pour atteinte à sa crédibilité. Voilà. Tout ça est intéressant parce que ça rentre vraiment dans le cadre. Greenpeace a fait appel, on attend la suite, mais en alléguant que ces sanctions ne sont pas acceptables puisque l'organisation estime jouer son rôle de lanceur depuis 1971 et son directeur Jean-François Julliard ajoute « C'est suite à notre intrusion que le Parlement a créé une commission d'enquête sur la sûreté des sites nucléaires ».
Alors juridiquement, évidemment, comme Greenpeace est une organisation, une personne morale, elle ne peut pas prétendre à la qualité de lanceur d'alerte, donc elle ne peut pas prétendre à la protection des lanceurs d'alerte. Donc ça déjà c'est un fait, mais là on est tout à fait dans le cadre d'une alerte qui est faite pour déclencher quelque chose. Mais on n'est pas dans le cadre prévu par la loi Sapin. On est plutôt, je dirais, plutôt de la désobéissance civile, je dirais. C'est ce qu'il me semble.
Désobéissance civile dans laquelle on peut ranger qui Antigone, qui enterre son frère malgré les ordres de l'oncle.
Oui, certainement
Nelson
aussi.
Nelson Mandela, Martin Luther King.
Oui, tout à fait. Alors là, oui, c'est exactement ça.
Des exemples historiques, qui ne manquent pas pour illustrer justement, en fait, cette tension entre le droit dans une société et puis le respect comme condition de la vie en société et en même temps une désobéissance qui permet à la société d'évoluer. C'est là que je veux en venir, Delphine Poné-Panoussi. Et le droit accompagne cette évolution.
Le droit...
Ou doit le faire.
Voilà, il se doit de le faire. Et on le voit bien, c'est-à-dire que le phénomène des lanceurs d'alerte n'était absolument pas appréhendé par le droit. Et on voit bien que c'est parce qu'il y a eu notamment certains scandales extrêmement importants que la loi a été créée, que les lois... Enfin, il y a tout le temps, le droit
avance. Bien sûr. La multiplication des lanceurs d'alerte, c'est un signe de bonne santé pour vous? Je sors un peu de votre rôle de juriste. Comment l'examinez-vous?
Oui. Je pense. C'est un signe de bonne santé de notre démocratie.
De la démocratie, tout à fait. Je veux dire, oui.
Alors après, évidemment, on va mettre le doigt sur des sujets qui fâchent, mais je pense que c'est important, justement, d'en parler et pour qu'on règle ces difficultés.
Nous avons parlé de la maison des lanceurs d'alerte. On va peut-être y revenir parce que vous avez vous suivez de près.
Je suis de près.
Cette affaire-là, c'est très récent.
C'est très récent, effectivement. Je pense que ça vient pallier l'absence de rôle d'accompagnant du défenseur des droits. Les lanceurs d'alerte, lorsqu'ils font des dénonciations, sont pris souvent dans une tourmente médiatique, juridique, etc. Ils sont souvent seuls, ils sont souvent isolés. Et ils ont besoin d'une aide concrètement matérielle aussi. Et c'est l'objet de la maison des lanceurs d'alerte, à l'initiative...
Matérielle, en fait, quoi, les aider parce que ça coûte très cher.
Bien sûr, c'est une aide juridique, les conseiller juridiquement, pourquoi pas les aider à trouver un avocat. Financièrement aussi, puisque généralement, c'est des gens qui ont perdu leur emploi, parce que justement, ils ont dénoncer des faits répréhensibles. Parfois, il y a même l'éclatement des familles, etc. Hein. Donc, la maison des lanceurs d'alerte est là pour les accompagner d'un point de vue juridique, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue financier, si besoin. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une volonté d'accompagnement, puisque quand on discute avec des lanceurs d'alerte, des anciens lanceurs d'alerte, chaque fois, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent que c'est très dur, parce qu'ils ont l'impression d'être le pot de terre contre le pot de fer, que le match est déséquilibré d'avance et ils ont besoin. Comme justement ils agissent dans l'intérêt général, l'idée c'est qu'on les aide. Puisqu'ils vont faire avancer la société, c'est qu'on les aide, évidemment.
Il est intéressant de noter d'ailleurs cette maison des lanceurs d'alerte, son origine c'était le mouvement Science Citoyenne qui a soutenu Yann Frachon dont on a parlé. Il y a eu beaucoup de scientifiques, plutôt bousculés, on va dire, contestés dans leur croyance. Christian Vélo, qui a parlé des risques liés aux OGM.
Tout à fait.
En général, effectivement, ils s'attaquent à des mouvements extrêmement puissants. Donc, c'est intéressant de voir que c'est parti de ces sciences citoyennes.
Hein. Alors, c'est sciences citoyennes, et puis il y a aussi Transparency International. C'est vraiment les deux grosses ONG qui font bouger les choses. Enfin, il y en a d'autres, certainement, mais je pense qu'il y a France Citoyenne et TI, Transparency International, qui font bouger les choses. Ils ont été aussi clairement... Ils ont joué un rôle de lobbying extrêmement important en coulisses dans l'adoption de la loi Sapin 2 aussi. Ils ont été auditionnés à la fois devant le Conseil d'État. Enfin, voilà, ils ont joué un rôle extrêmement important.
Le rôle du politique, nous n'en avons pas du tout parlé. Il y a des parlementaires, il y a pas, notamment le député socialiste Gérard Bapt, il y en a d'autres sans doute. Et actuellement, certains plaident pour une loi globale, pour un statut unique protection des lanceurs d'alerte. Mm-hmm. Vous parlez peu du rôle des politiques dans cette affaire.
Là, ceux qui plaident ça, ils sont un petit peu obsolètes, puisque justement, la loi Sapin, c'est justement...
Pour vous, elle y répond suffisamment.
Ben oui, après, elle a des défauts qu'il faut corriger, mais c'est justement un mécanisme de protection globale, quel que soit le secteur. On est bon là-dessus. Après, il faut certainement corriger certaines choses, des détails, améliorer. Voilà, il faut que les paliers fonctionnent de façon souple, de manière à ce qu'on puisse, si l'urgence est là et s'il y a un risque de dommage irréversible, mais c'est prévu par la loi, directement aller porter ces informations au public. Je pense que l'idée, elle est là. Faut pas, la loi, elle est plutôt bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une souplesse entre les paliers et qu'une personne qui ne peut pas faire autrement qu'aller directement, publiquement dénoncer ce qu'elle connaît, elle soit protégée aussi. Justement. Après, les politiques, ils s'intéressent de plus en plus à la question. Là, je sais qu'il y a le vice-président de l'Assemblée nationale qui organise les 48 heures des lanceurs d'alerte au Conseil de l'Europe. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les hommes politiques.
Nous avons signalé les formations auprès des élèves de l'ENA. Il y a des élèves invités qui viennent de tous les pays.
Il y a des cycles internationaux.
Et notamment de pays qui ne disposent pas de ces lois. Nous avons parlé de 60 pays, notamment de jeunes étudiants africains.
Oui.
Très surpris par tout ce qui se passe.
Alors, oui, surpris et parfois, ils se demandent qu'est-ce que c'est que cette invention, parce que j'allais dire que c'est quand même un luxe des démocraties occidentales que de prévoir ce genre de système. Ils n'en sont pas là, parfois, malheureusement. Et il y avait effectivement un élève, je ne me souviens plus de quel pays africain, mais qui m'avait dit « Mais est-ce qu'il n'y a pas une protection ?» Parce que vous parlez de protection contre les mesures disciplinaires, contre les infractions pénales. Et on ne protège pas physiquement les personnes. J'ai dit « Mais est-ce que vous voulez dire elles peuvent se faire tuer ?» J'avais dit « Ah bah oui, ben voilà, c'est-à-dire que des choses qui... »
Vous avez dit « Les menaces existent. Hein. »
Elles existent, hein, même, on est d'accord. Hein,
même dans nos pays.
Même dans nos pays. Mais voilà, il y avait des choses très concrètes. Et ce qui était encore le plus surprenant, c'est qu'il y avait aussi une élève chinoise. Et avec la censure qui existe encore là-bas, hein, elle était aussi, quand je parlais du mode de signalement par Internet, etc., elle avait souri.
En attendant, c'est intéressant d'aller voir futurs administrateurs
exactement.
Et fonctionnaires.
C'est très riche.
Moi,
j'adore animer ce genre de formation, en particulier avec justement des étudiants étrangers, parce que c'est très riche et on apprend énormément.
Mais je parle même des Français aussi.
Exactement.
Pour l'administration française,
ah, oui.
Ça n'est pas mal.
Alors, pour l'administration française, ça, maintenant, il y a régulièrement des formations de déontologie et on fait gentiment appel à moi et je viens expliquer le système, la mise en place de la procédure interne, ce que justement on doit faire pour être, ce que l'administration doit faire pour être aux normes avec les exigences de la loi Sapin. Je viens expliquer tout ça. Et donc, oui, c'est un sujet dont se préoccupe l'administration au plus haut niveau.
Et
donc,
c'est une bonne chose. Et votre ouvrage, je le rappelle, voilà, les lanceurs d'alerte, quelle protection, quelle limite.
Tout
vous l'avez
fait.
Écrit, c'est paru édition Erol. Vous l'avez paru
à la LGDJ.
À la LGDJ, c'est-à-dire la
Librairie Générale.
Merci.
De droit et de jurisprudence.
De droit et de jurisprudence, avec Mathieu Dizan. Et ce qui est intéressant, je l'ai signalé, je crois, c'est qu'il y a des juristes français et étrangers, mm-hmm. mais de différentes approches, avec des regards historiques et économiques et éthiques.
Aussi.
Bien sûr. Eh bien, merci infiniment d'être venue nous trouver, Delphine
Paulet. Merci de votre invitation.
Et merci à notre équipe, Anne-Laure Chanel pour réaliser l'émission avec Delphine Baudet ce soir, Catherine Donnet, Sandrine Chaperon, avec Joséphine Lampreya, notre stagiaire, assure la documentation, la préparation aussi de nos émissions et entretiennent notre site sur lequel on pourra retrouver les références de cet ouvrage dont nous venons de parler. Et nous poursuivrons demain notre petit parcours avec les lanceurs d'alerte. Nous recevons Marc Dufumier qui est agronome. Bonsoir à tous, à demain.